Bonjour à tous, c'est Shavua Tov. Voilà, ça y est, on est après les fêtes, après Pessah. J'espère que Pessah s'est bien passé pour tout le monde. On a eu un Pessah extrêmement particulier. Je pense que tout le monde l'a vécu de manière incroyable, seul, avec sa famille proche. Et ça a donné naissance, évidemment, j'imagine, chez vous, chez moi, je vais vous en parler, à énormément de réflexions. Mais avant de vous faire part de ces réflexions dans le cours qu'on va faire ce matin, ça y est, on se remet en forme, on se remet à la page. Et donc, je voudrais simplement vous expliquer comment est-ce qu'on va fonctionner. On va reprendre nos cours journaliers. Donc, nous aurons un cours tous les jours, Bezrat Hashem, le dimanche, lundi, mardi, mercredi, et le jeudi soir, nous avons notre grand cours, Bezrat Hashem. Et donc, à chaque fois, on va traiter un autre sujet. Le dimanche, on traitera un sujet divers et varié à chaque fois. Le lundi, on continue notre étude sur la Tefila. Le mardi, on essaye de parler inyané des Yoma, c'est-à-dire en fonction de la période. On va parler évidemment de Yom HaShoah ce mardi. On va parler de Yom HaAtzmaout. On va parler de l'Akba Omer. On va parler à chaque fois. On a la chance, dans le calendrier juif, d'avoir tout le temps quelque chose à dire. Donc, le mardi, ce sera inyané des Yoma. Le mercredi, Parashat HaShavua. Et le jeudi, le grand cours du jeudi soir. Ça, c'est un thème surprise à chaque fois. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est de l'ambiance. Faites-moi part également, je propose de lancer une étude également sur le livre de Pirkei Avot. Voilà, ça c'est une idée, si vous voulez, eh bien, vous m'en ferez part. Voilà, donc aujourd'hui, on va commencer un petit chiour sur une des grandes réflexions qu'on a eues dans ma famille pendant ce Pessah. Donc évidemment, on était... Et qu'entre nous, on était seuls. Et l'une des grandes questions qui s'est posée, et elle s'est posée tout au long du Pessah. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors au début, c'était du qu'est-ce qu'on fait pour s'occuper le temps. On n'a plus à l'école, on peut plus aller jouer au foot dans le terrain de foot. Qu'est-ce qu'on fait? Mais très vite, le qu'est-ce qu'on fait est devenu une vraie réflexion profonde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a à faire? Et si vous voulez, le point culminant de cette réflexion a eu lieu hier soir. Hier soir, donc avant la fin de Shabbat, eh bien, comme j'ai envie de vous dire tous les jours, mais malheureusement, des fois, j'y arrive pas, mais presque tous les jours, donc j'ai un moment d'étude différent avec les enfants, avec chacun des enfants. Avec ma fille de 3 ans, bon, j'avoue qu'on n'y est pas encore, mais avec ma fille de 7 ans, on lit chaque soir une histoire de Koasu Chachamenu, Sipuré Chazal. Ensuite, avec mon fils de 9 ans, on étudie un chapitre du Tanakh et une Mishnah par jour. Là, on est actuellement dans le livre de Yoshua. On vient de commencer, on a commencé pendant Pessah. Et dans Mishnah Masechet Souka. Oui, parce qu'on avait fait une erreur avec mon fils et on a décidé de la corriger. C'est qu'on avait commencé en étudiant les Mishnayot. Il a déjà fait 3 Sioum de 3 Master Top de Mishnah. Mais on n'avait pas commencé le Tanakh bien comme il faut. Il l'a fait à l'école, évidemment, mais... Donc, on s'est rattrapé, on a fait tchouva, et donc on a commencé le Tanakh, et on n'a pas arrêté quand même notre étude de Mishnah. Donc, un perek de Tanakh et une Mishnah par jour. Et avec ma fille, on a décidé de rentrer en profondeur dans une autre Mishnah, dans Pirkei Avot, parce que c'est la base de l'identité d'Israël. Et donc, hier, on était avec ma fille dans cette Mishnah du premier chapitre de Pirkei Avot, Mishnah de Hillel Azaken, qui nous dit « Im ein anili mili ». Et en fait, tout va partir de là. Im ein ani li mili. Si je ne suis pas moi-même, alors qui suis-je? Et qui sera moi-même? Et ça, c'est une grande question. Par rapport à tout ce qu'on a vécu pendant ce dernier mois, et petit à petit, Bezrat Hashem, on va rentrer dans un déconfinement très progressif pour revenir à une routine qui sera un peu différente, pour revenir à une routine comme on a pu la connaître, avec évidemment des améliorations, parce que je ne pense que les grandes choses ne sont que censées être moteurs d'amélioration, même si des fois il y a des yéridotes, comme disait le Rav Kook, c'est ce qu'on appelle yérida letzorer alia. Donc, la question est la suivante. Qu'est-ce qu'on fait? Qui suis-je? Im enanili mili. Si je ne suis pas moi-même, qui va l'être? Ou que suis-je? Qui suis-je? Eh bien, en fait, cette Mishnah de Hillel nous ramène à une réflexion extrêmement grande. Il semblerait que j'ai un rôle à jouer dans le projet divin. Et je le dis comme ça, sans honte et sans fausse modestie. Moi, alors que je ne suis rien, que les choses soient bien claires, ne me prenez pas, je ne suis rien du tout. Mais moi, j'ai un rôle avec mon rien du tout. J'ai un rôle à jouer dans le projet divin. Et je vais vous dire mieux que ça. Un rôle à jouer que personne, y compris les plus grands de nos rabbanim, ne peuvent pas remplir. C'est ce que l'on dit, si vous voulez, dans cette phrase incroyable qu'on va dire à Yom HaKippourim, après avoir dit « Al-Khet, 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 Al-Khet », eh bien, on dit une phrase incroyable. On dit « At shelo notzarti eini kedai ». Tant que je n'ai pas été créé, je ne valais pas le coup. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dit le Rav Kook dans l'Atriya, tant que tu n'as pas été créé, ça fait combien de temps qu'il s'est passé depuis la création jusqu'à toi ? Bon, allez, au bas mot, hein, on n'est pas à 10 minutes près. Allez, on va dire 13,7 milliards d'années entre le Big Bang et toi. C'est pas mal de temps, hein, quand même. Eh bien, tant que tu n'as pas été créé, ça veut dire que tu ne valais pas le coup. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dieu pouvait très bien se passer de toi pour son plan. Aval, maintenant que j'ai été créé, alors c'est que Dieu a besoin de moi. De moi, de tout ce que ça représente. Ah oui, dans la phrase là-bas, dans la tfila de Yom Kippourim, on dit « Varchav shenotzarti keilu lo notzarti ». Et maintenant que j'ai été créé, c'est comme si je n'avais pas été créé. Pourquoi ? Parce que je viens de dire « Al-Khet, Al-Khet, Al-Khet », je viens de dire tous les trucs que je n'ai pas fait bien. Donc je dis maintenant que j'ai été créé, en fait, c'est comme si je n'avais pas été créé, parce que je ne remplis pas mon rôle. En d'autres termes, oui. Si je suis là, c'est parce qu'il y a quelque chose que seul moi peux faire pour réaliser le projet divin. C'est incroyable de responsabilité. Dieu me fait confiance. C'est incroyable. C'est tout simplement incroyable. Dieu me fait confiance en moi. C'est-à-dire que j'ai quelque chose à donner que personne d'autre ne peut donner. Alors, ma fille hier ne comprenait pas. Quoi ? Moi, j'ai quelque chose à donner. Je lui ai dit, mais c'est ça tout le travail, ma grande. Tout le travail est de comprendre qu'est-ce que moi, je peux apporter que d'autres ne peuvent pas apporter. Elle a dit, ah ouais, mais c'est très dur. Elle dit, ouais, il faut apprendre à se connaître. Il faut et être très honnête avec soi-même. Attention. Je lui ai dit, regarde, des gens qui enseignent la Torah, il y en a plein. Et il y en a plein qui le font bien mieux que moi. Alors, elle dit, alors quoi ? Alors, ton truc, c'est pas d'enseigner la Torah ? Je lui ai dit, j'espère que si. Mais tu sais, ton papa, il fait pas que enseigner la Torah. J'ai aussi une autre casquette, je suis aussi guide. Des guides, il y en a plein. Nachon. Il y en a déjà moins qui sont guides et qui enseignent la Torah en même temps. Et qui essayent, quand ils vont donner un cours, de les rattacher avec Eretz Israël, ou alors quand ils vont se faire une balade en Eretz Israël ou en Pologne, eh bien, les rattacher avec la Torah. Mais tu sais, je parle aussi français. Il y en a peut-être moins encore qui font cette triplette. Et puis tu sais, je suis aussi Chozer Bitshuva. C'est-à-dire que je n'ai pas vécu tout le temps dans le monde religieux, ce qui fait que j'ai un contact avec les gens qui me permet d'avoir des connaissances qui peuvent leur parler à eux, qui ne sont pas forcément religieux non plus. Mais j'ai aussi étudié à la Yeshiva pas mal de temps. Donc je peux aussi avoir un langage qui va parler à ceux qui ont étudié la Torah. Et ainsi de suite, qui font que ce que moi je peux faire, eh bien un copain à moi, qui est meilleur que moi dans la Torah, qui a de meilleures connaissances, ne pourra pas forcément faire lorsqu'il sera face à une jeune participante de Taglit qui n'est pas, on va dire, selon les critères de la tzeniout, habillée en mode Meaché Harim. Parce que lui, il a grandi dans un monde religieux. Il n'a jamais vu une fille habillée, on va dire, en tenue d'été. Et donc, face à elle, il ne saurait pas quoi dire. Et parce que moi, j'ai grandi dans un autre milieu, alors je sais comment parler avec des gens qui ne sont pas du milieu de la Torah. J'ai dit à ma fille, il est temps que toi, tu apprennes, ça y est, tu es bat mitzvah, il est temps que tu apprennes à te connaître et à savoir quelle est ton identité profonde, qu'est-ce que toi, tu peux apporter. Mais vous comprenez bien que ce que je vous dis là maintenant au niveau individuel n'est pas seulement vrai au niveau individuel. C'est évidemment vrai au niveau collectif. Et je vous amène maintenant dans un verset de la Torah. Un verset de la Torah que vous connaissez peut-être dans la paracha de Nassau. Paracha de Nassau dans le livre de Bamidbar. Alors, comme vous le savez, la paracha de Nassau est la plus longue de toute la Torah. Pourquoi est-elle la plus longue de toute la Torah? Eh bien, pour une raison très simple, à cause de ce verset. Nous sommes donc au chapitre 7 du livre de Bamidbar et nous allons commencer l'inauguration du Mishkan, du tabernacle. Et là-bas, eh bien, chaque tribu va amener son tribut. C'est-à-dire chaque chef de tribu d'Israël, c'est-à-dire qu'il y a 12 tribus en Israël, eh bien, chaque chef de tribu va amener son offrande au Mishkan. Et voilà le verset, je vous le lis. « Vaïa makriv bayom arishon » Voilà le premier jour de l'inauguration du Mishkan. Voilà celui qui a apporté son premier korban. « Et korban arshon ben aminadav » Le même qui était rentré dans l'eau dont on avait parlé pendant Pessah. Donc, l'arshon ben aminadav a amené son korban. Le maté Yehuda, pour le tribut de Yehuda. וקורבנו כערת כסף אחת שלושים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקודש שניהם מלאים סולד בלולה בשמן מנחה כף אחת עשרה זהב מלאה כתורת פר אחת בן בקר איל אחד כבש אחד עשר בן שלטו לעולה סיר עזים אחד לחטאת ולזבר השלמים בקר שניים אלים חמישה עתודים חמישה כבשים ונשנה חמישה זה קורבן נחשון בן אמינדב. Alors oui, c'est déjà redondant quand je le lis en hébreu. Je vais donc vous faire sur la traduction. Bon, il emmène toute une tripotée d'animaux comme étant le sacrifice des ce qu'on appelle korbanot à milouim pour l'inauguration du Mishkan. Bon, c'est très intéressant. Mais le problème, c'est que ça, c'est le korban de Narshon ben Aminadav. Et vous voyez, nous avons déjà plusieurs versets qui parlent du korban de Narshon ben Aminadav. Ce qui va rendre la paracha aussi longue, c'est que on va répéter 12 fois ces versets-là. Puisque chaque chef de tribu va amener également son korban. Et non seulement il va envoyer son korban, mais je vous le dis, c'est le même korban. C'est exactement le même korban que celui de Narshon. Ne va changer que le nom et la tribu de celui qui l'amène. Donc moi, je pose une question. Je me dis, attends, et les gens, ils ont peut-être autre chose à faire que de rester à la synagogue et écouter la paracha. Donc, on n'a qu'à faire, on passe en revue le korban de Narshon, le premier, et puis après, je propose un autre verset qui dit « Et après, ils ont tous amené pareil. » Voilà. « Ish ki shivto evi et korbano. » Voilà. Je balance un verset qui n'existe pas. Chacun, chaque prince de tribu, selon sa tribu, a amené le même korban. Yalla ! Et on a réglé l'affaire, puisque, je vous le dis encore une fois, vous regardez dans le chapitre 7, c'est les mêmes korbanotes. Donc, pourquoi la Torah, qui en général est d'ailleurs assez avare en mots, pourquoi la Torah a décidé de répéter 12 fois le korban ? Eh bien, pour une raison très simple. Très simple. Bien sûr, c'est le même korban. Mais il n'y a absolument aucune chance que ce soit le même korban. Oui, dans les faits, c'est le même. Mais vous comprenez bien que lorsque amène le korban le prince de la tribu, le chef de la tribu de Gad, eh bien, il y amène également tout le monde de Gad. Tout ce que représente cette tribu de Gad, et ça n'a rien à voir avec la tribu de Asher. Bien que, concrètement, ce soit le même korban, il n'est, au niveau du cœur, absolument pas fait de la même chose. Les intentions ne sont pas les mêmes, les réflexions ne sont pas les mêmes. Donc, il ne s'agit pas du même korban. Les amis, c'est exactement la même chose lorsqu'on parle de la tfila. Lorsqu'on parle de la tfila, on fait tous la même prière, on a tous le même texte de la Amida. Et pourtant, il est évident que la façon dont moi, je vis, quand je dis que Dieu, il est Eloheinu Veloé Avotenu, il est évident que je vis ça de manière différente de mes amis, qui pour eux, Eloheinu Veloé Avotenu, à la différence de moi, qui le voit comme étant parlant yiddish et mangeant du gefilte fish, eux, il le voit plutôt en djellaba en mangeant des moufletotes. C'est complètement différent. Ce sont les mêmes mots. Mais le monde intérieur que je mets dedans, c'est le mien. Et il n'est pas le même que celui de mon prochain. Et donc, comme vous le savez, il y a dans le peuple juif 12 tribus. Ce qui veut dire que pour comprendre ce que c'est que l'identité d'Israël, eh bien, il faut bien comprendre l'identité des 12 tribus d'Israël. Car s'il en manque, eh bien, c'est une partie du peuple juif qu'il manque. Je me reprends. Une partie du peuple d'Israël. Juif, c'est déjà une notion amoindrie, puisque juif fait référence à la tribu de Yehuda, qui elle-même faisait référence à une époque plus lointaine, au royaume de Yehuda, alors qu'on avait déjà perdu les 10 tribus du Nord. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on se plonge dans l'identité des 12 tribus d'Israël. Alors, on va faire ça vite, hein, vous en faites pas. Et vous allez voir que, en fait, c'est très clairement expliqué, c'est explicite pratiquement, dans le livre de Bereshit, à la paracha de Vayechi. Lorsque Yaakov va bénir ses enfants, eh bien, en fait, il nous donne tout simplement leur idéaux. Il dit à chacun ce en quoi ils sont forts. Quel est leur truc? C'est quoi leur chemin? C'est quoi leur impact qu'ils doivent avoir sur le monde? Alors allons-y. Réhouven. Réhouven, on nous dit Kochi, Réhouven Bechori Ata. Kochi, Vereshit Oni. יתר סד ויתר אז פחז כמיים על תותר, כי עלית משכב אביה, אז חיללת יצוי עלה. Alors Réhouven, Réhouven, c'est le Bechor, c'est le premier-né, il est puissant. Kochi, Vereshit Oni, il porte en lui la force du chef. Il est Bemet Pachaz Kamaim. Il n'a peur de rien, il y va. Il ne fait pas de réflexion trop poussée, lui, il y va. Ou pochez kamaim. C'est-à-dire, il est impétueux, tel le torrent. C'est une qualité, ça. Oui, mais c'est aussi un grand défaut. Car Réhouven, même s'il est un chef, et qu'il dit, allez, on y va! Il passe son temps à dire, allez, on y va! Le problème, c'est que des fois, hein, il est trop pochez kamaim. Il va trop vite. Le problème de Réhouven, c'est que des fois, son mérite, sa volonté d'aller toujours de l'avant, lui fait faire des erreurs, lui fait dire des bêtises. Il est un chef, mais il est un chef qui ne peut pas être aux commandes. Pourquoi il ne peut pas être aux commandes? Parce que si on le laisse diriger, il va nous emmener des fois dans des directions complètement absurdes, juste parce que, sur le moment, il est chaud, quoi. Réhouven, celui qui dira lorsque il faut aller chercher Yosef en Égypte et qu'il faut dire à convaincre Yaakov qu'il faut aller chercher, renvoyer tout le monde et Binyamin y compris, il dit écoute, si jamais je ramène pas Yosef, tue mes deux enfants. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Réhouven, allô? En d'autres termes, Réhouven, c'est un chef. Et si on devait créer un gouvernement, il serait évidemment dans le cabinet des preneurs de décision, mais il ne peut pas être le président. Alors, je vais utiliser des termes que vous connaissez outre-Atlantique. Il ne pourra jamais être le président des United States of Israel. Il devra être le vice-président. Parce qu'il a les qualités d'un chef. Il doit être celui qui motive le chef en disant « Yalla, on y va !» Mais il ne peut pas être celui qui prend les décisions parce qu'il est trop impétueux. Ça, c'est Réhouven. Shimon, Verevi, Achim, nous dit la Torah, Klechamas Mecherotem. Shimon et Lévi, indissociables. Achim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vas apprendre qu'est-ce que c'est que la fraternité dans le peuple juif, va voir Shimon et Lévi. Eux, ils vont t'apprendre ce que c'est. Mais on connaît Shimon et Lévi. On sait ce qu'ils ont fait à Shrem lorsqu'ils ont massacré toute la ville de Shrem parce qu'ils ont kidnappé Dina. En d'autres termes, Shimon et Lévi, c'est des gens qui ne sont prêts pour rien au monde de laisser bafouer l'honneur d'Israël. Ça, c'est la première chose qu'on peut apprendre d'eux. Mais vous allez me dire, Shimon et Lévi, c'est pas très bien hein, ce qu'ils ont fait. Puis Yaakov, il n'est pas très content. Il les bénit. Il faut se comprendre en quoi c'est une bénédiction. Pourquoi je dis que c'est une bénédiction? Également Réhouven. Parce qu'à la fin des brachot, des 12 tribus, il y aura marqué « Ish asher kebirchato berach otam ». Il les a chacun bénis selon leur bracha. Donc c'est une bracha. Il faut juste comprendre en quoi c'est une bracha. Mais les amis, en quoi c'est une bracha, Shimon? C'est Lévi. Nous dit la Torah, « Besodam al tavonafshi, ubikehalam al techat kevodi. » Nous dit Yaakov, « Besodam, Altavonashi. Qu'est-ce que ça veut dire Besodam? Ça ne veut pas dire leur secret. Sod, ça vient du terme Sid, Leistoded, ça veut dire se coller, se souder. D'ailleurs, le mot en français vient de là. Se souder. D'ailleurs, on est lié par un secret. Sod. Donc, Besodam, lorsque Shimon et Lévi sont collés, Altavonafi, genre, je ne peux pas les gérer. Ou Bikehalam, Altechat Kevodi, je ne peux pas les dompter ensemble. Ils sont ingérables ensemble. Donc, alors que j'ai besoin de leur force, eh bien, je vais trouver la solution. Achalkem beYaakov, vafitzem beYisrael. Je vais les disperser dans tout le peuple. Parce que j'ai besoin de ce qu'ils représentent. Un, cette notion de fraternité. Et deux, cette notion de combat pour le kavod d'Israël. Mais j'en ai besoin partout. Je ne peux pas les avoir tous réunis au même endroit. Vous imaginez un endroit où on mettrait tous les fanatiques au même endroit? Pas possible. Mais on a besoin de ce fanatisme au compte-gouttes. Là où il faut. Et des fois, ils prendront le pouvoir pour un moment. Comme à l'époque de Hanouka, où les Lévim ont pris le contrôle. Mais c'était que pour un temps. Parce que la situation l'exigeait. En d'autres termes, Shimon et Lévi représentent d'un côté le rapport et l'enseignement de la fraternité à chacun du peuple juif et deux, la notion d'être fondamentalement attaché à l'honneur de ce que représente le peuple d'Israël. C'est la raison pour laquelle, bon ben, si on devait donner des titres ministériels, eh bien, Lévi, c'est facile. Lévi serait notre ministre de l'Intérieur, bien sûr, puisqu'il est où ? Mais il est partout. Lévi n'a pas de tribu. Lévi est dispersé partout. Il est celui qui connaît le mieux ce qui se passe à l'intérieur du peuple juif. Shimon, dit le Talmud que Shimon seront les Melamdé Tinokot de Malché Yehuda. Que la tribu de Shimon seront les éducateurs des rois de Judée, des enfants des rois de Judée, etc. En d'autres termes, Shimon, au niveau de son territoire, il est imbriqué dans la tribu de Yehuda. En d'autres termes, Shimon est notre ministre de l'éducation. Un ministre de l'éducation ne doit pas être un homme qui connaît toutes les matières qu'on va enseigner dans son école. Il ne doit pas être et un mathématicien, et un physicien, non. Pour ça, il n'a qu'à désigner chaque secteur, son chef de secteur, qui lui fera un rapport. Il faut que le ministre de l'éducation ait intégré à l'intérieur de lui-même les bases mêmes de ce qu'il veut éduquer. Or, il n'y a pas de plus grand défi et de plus grande éducation que celui qui est d'être fier de qui on est. Ainsi, Shimon sera notre ministre de l'éducation. Alors, je passe sur Yehuda deux secondes, car comme vous le savez, c'est Yehuda le chef, donc on reviendra à lui à la fin. Après Yehuda, donc, on arrive à quoi ? On arrive à Zevulun. Zevulun, Lechof Yamim Ishkon, Veu Lechof Oniot, Veyachato Al Tzidon. Alors Zevulun, on a l'habitude de dire qu'il est sur la mer. D'abord, si on regarde la carte de quel est son territoire, il n'a pas de Gisha à la mer, il n'est pas sur la mer. Donc qu'est-ce que ça veut dire Lechof Yamim Ishkon ? Il sera toujours sur les plages, mais pas les siennes. Parce que Zevulun est celui qui va commercer au loin. C'est lui qui va sur les plages. C'est-à-dire que c'est le premier contact que Am Israël a avec les nations. C'est un contact commercial. Et grâce à ce contact commercial, nous dit le Talmud, que les gens vont être émerveillés par ce Zevulun, par les gens qui le représentent, et disent « Mais tiens, on aimerait bien venir voir chez toi, à quoi ça ressemble ?» Si toi, tu es un représentant d'eux, et grâce à ce Zevulun, eh bien, il y aura plein de convertis dans le peuple juif, qui viendront sur ses bateaux, qui reviendront avec lui en Israël, et qui verront ce qui se passe ici. Zevulun, par le commerce, eh bien, est celui qui arrive le mieux à faire transmettre les idéaux du peuple juif pour que les gens s'y intéressent, même à l'extérieur. En d'autres termes, Zevulun, il ne peut pas être le chef, parce qu'il ne pense qu'en termes d'intérêt commercial. T'imagines un président qui ne penserait que à des intérêts économiques ? Il y a d'autres intérêts qui rentrent dans la balance. Donc, Zevulun sera un très très bon ministre de l'économie. Après, nous arrivons à Yissachar, Yissachar, Chamor, Garen, Rovetz, Ben Amishpetaim. Zachar est prêt à être un âne de travail, c'est-à-dire qu'il est capable de supporter une charge de travail incroyable. Mais pour quoi faire ? Pour l'Irbotz Ben Amishpetaim. Pour se rentrer et re-rentrer et re-rentrer dans la loi. Alors vous allez me dire peut-être que c'est le ministre de la justice, car il y a la loi et il y a rendre la justice, c'est deux choses différentes. Issachar étudie la loi et ne ménage pas ses efforts. Issachar est prêt à étudier 18 heures par jour la Torah. Et quand tout le monde est fatigué, lui, il étudie encore. Issachar, c'est notre religieux. Issachar, Vayar Menucha Kitov, Vaharet Kinaema, Vayet Shikmol Irzbol, Vayilemas Oved. Issachar est prêt à payer un tribut, une taxe, pour qu'on le laisse étudier. C'est quoi ce tribut? Bah, il sait qu'il ne pourra pas profiter de cette terre qui est la sienne. Il sait qu'il ne sera pas avec un compte en banque extraordinaire. Il vivra en Tzimtzoum. Il vivra de peu de choses. C'est son choix. Parce que pour lui, le plus important, c'est l'étude de la Torah. Vous en connaissez comme moi, les gens que... Est-ce que tu peux les mettre au pouvoir? Mais non, chas v'shalom. Chas v'shalom de mettre un relige, comme on les appelle, au pouvoir. Attends, tu rigoles ou quoi? Il va faire que tout le monde va étudier la Torah. À ce moment-là, plus personne va aller travailler dans les champs, plus personne va aller produire de la richesse, et on sera tous des pauvres. Non, tu ne peux pas faire ça. Évidemment que non. Mais tu peux le mettre en tant que chef de ce qui va se passer au niveau de l'enseignement de la tradition d'Israël. Je le mettrai donc Sarah Datot, ministre du culte. Et puis après, nous avons Dan. Dan Yadin Amo, qui est Rabbi d'Israël. Dan, bah, c'est le juge par excellence. Ou à Chofet, c'est le ministre de la Justice. Là, il n'y a pas de problème, c'est clairement dit. Tu ne peux pas le mettre en tant que chef. Ah ben non, tu ne peux pas le mettre en tant que président. Parce qu'il va voir un président qui ne serait que Midatadin. Vous savez, dans les années 90 ou 80, je ne sais plus, il y avait un film qui n'était pas bon pour son scénario. Et on a, enfin moi, quand j'étais jeune, je l'ai regardé, j'ai eu des étoiles dans les yeux. Il s'appelait Juge Dredd. Juge Dredd avec Sylvester Stallone. La loi, c'est moi. Ouais, bon, bah, t'as compris que le scénario du film n'était pas forcément extraordinaire, mais ça montrait bien comment est-ce que bah, tu peux tomber dans toutes les dérives au nom de la loi. Je vous rappelle que le Talmud de Jérusalem nous dira que Jérusalem a été détruite au deuxième temple parce qu'on avait fait din Torah. C'est-à-dire qu'on ne se faisait que midat hadin les uns les autres et pas de rachamim. Donc Dan ne peut pas être le chef, mais il peut être le ministre de la Justice. Gad, Gdoud, Yegoudenou. Ah, fastoche. Gad, c'est le Gdoud, c'est un khayal. Il vit toute sa vie comme un militaire. Bah, c'est pas shoot. C'est pas shoot que tu peux pas le mettre en chef. On vit pas une vie militaire. Mais tu en as besoin comme ministre de la Défense. Et bien après, tu as Neacher, Shemena Lachmo, Veuyiten Ma'adanem Melech. Ah, Cher, il est capable de donner du pain à tout le monde. C'est lui qui va être capable de donner à manger à tout le monde. Alors, je ne sais pas comment ça marche aux États-Unis. Si on a dit que Zvulun était le ministre de l'économie, alors peut-être qu'on devrait dire que Issachar est le ministre de l'économie intérieure, le ministre, comment on dit, l'agriculture. Voilà, allez, ministre de l'agriculture, ça passe. C'est lui qui donne à manger au peuple juif. Et puis finalement, nous arrivons à Naftali, Ayala Shlucha. Naftali, il est capable de courir très vite comme une gazelle, mais il est capable également de faire de la poésie, de chanter. Hey, Naftali, c'est pas shoot. On a besoin dans un État qu'il y ait une place très importante pour la culture, le sport. Eh oui, tu peux pas le mettre en tant que chef, évidemment. Naftali sera notre ministre de la culture et des sports. Et puis finalement, Yosef. Yosef, trois pages, trois lignes pour nous aider de passer la pommade sur Yosef. Ben Porat Yosef, Ben Porat Areaïn, Banot Saada, Yeshuv, Marou, Bobo, Vestemou, Balechitzim, Vateshem, Etan Kashto, Vafosuz, Roi Adav, Davir Yaakov, Misham Roi Ben Israël, Mer Avicha, Veveka, Vet Sadaï, Vet Sadaï, Sadaï, Veveka, Birkot Sadaï, Shamaim Miral, Birkot Tomo, Vetetachat, Birkot Sadaï. Combien la pommade? Il est parfait. Yosef, il est au top. Yaakov, il dit que Yosef, c'est le top, top du top. Il n'y a rien de mal chez Yosef. Tout le monde le déteste. Ben oui. Tout le monde le déteste parce qu'il est parfait. Il est tellement parfait que tu m'énerves. Quand Yosef, il est chez nous, parce qu'il est tellement extraordinaire, ça nous énerve. Par contre, Yosef, il est très, très, très bon pour nous représenter quand il n'est pas chez nous. En d'autres termes, Yosef, il réussit chez les goïms. Mais il réussit à ne pas perdre son identité et à influer en tant que Yosef, membre d'Israël. Gunov, Gunav, Timer, et Saïvrim, il dira, j'ai été volé du pays des Hébreux, il ne renie pas son identité. Donc Yosef, c'est notre ministre des Affaires étrangères, ou notre ambassadeur, comme vous voulez. Bin, ah, Binyamin, Zev, Yitraf, Baboker, Yochal, Ad, ou Baerev, Yachalek, Shalal. Binyamin, il est très très bon le matin et le soir, nous dit la Torah. C'est-à-dire qu'il est bon en début de processus et en fin de processus, il ne tient pas la distance. Il ne peut pas être le chef parce qu'il n'a pas cette longévité. Mais par contre, il est là quand il faut et il sera toujours aux côtés du chef. En d'autres termes, c'est le secrétaire d'État. Secrétaire, je ne sais pas comment on dit, en le chef du... Le responsable de... Comment on dit chief of staff, un truc comme ça, quoi. Le chef du bureau du président. Et puis enfin, vous avez compris, il nous reste Yehuda. Yehuda, c'est le président. Yehuda, c'est le chef. Mais pourquoi Yehuda, c'est le chef? Car Yehuda, il a une qualité qui va lui permettre d'être le chef. D'abord, Yehuda, yoducha achecha. Yehuda, il est accepté par les autres. Tu ne peux pas être un chef si tu n'es pas accepté par les autres en tant que chef. Mais tu n'es pas accepté parce que tu es un chamoud. Non, non, non. Yehuda, yoducha achecha, yoducha achecha, be'oref oivecha, ve'yadecha be'oref oivecha. C'est-à-dire, tu sais aussi éclater tes ennemis. Tu es aussi un gibor, bien sûr. Sinon, ça ne marchera pas. Et puis, on te dit aussi, Gour Arié Yehuda, tu es un lionceau et ensuite, tu deviens le roi lion. Et après, on dira même que tu es la vie, c'est-à-dire que tu es Bamash. En d'autres termes, Yehuda a cette qualité de patience. Léat, Léat. Et c'est cette qualité-là, de Léat, Léat, qui lui permet d'être le dirigeant d'Israël. Il a également Midat Adin, également Midat Rachamim. Dans ce territoire, il y a également le vin rouge, les raisins rouges de Midat Adin et également le lait des troupeaux de Midat Rachamim. En d'autres termes, Yehuda, c'est le chef. Mais vous avez compris qu'il ne peut pas être le chef tout seul. Car chacun des membres des Bnei Israël représente une partie de ce qu'est le dévoilement de Dieu. Et s'il en manque une, eh bien, il nous manque ce dévoilement. En d'autres termes, chacun doit trouver quelle est son obédience. Est-ce qu'il est plus Yehuda? Est-ce qu'il est plus Zvouloun? Est-ce qu'il est plus Naftali? Il y en a chez tout le monde, car le peuple juif, après 2000 ans d'exil, s'est quelque part recréé les 12 tribus. À chacun d'entre nous de savoir à quelle tribu, au niveau de notre identité, on se rattache. Et à ce moment-là, eh bien, on pourra tout simplement réaliser les paroles du Rav Kook lorsqu'il dit « Hashem Tzevaot ou Hashem Elohe Israël »« Et Tzivot Israël, Tzivot Hashem Hem » Lorsque nous comprenons que l'identité d'Israël globale représente la volonté de Dieu, alors on comprend que l'identité collective formée de chacune de ces identités particulières, eh bien, représente ce que HaKadosh Baruch Hu a envie de nous apprendre lorsqu'il se dévoile ici. Il n'en reste plus qu'à nous de nous savoir comment nous placer par rapport à cette Mishnah de Hillel en disant « Im ein anili mili ». Donc tu sais quoi ? T'as qu'à être toi pour savoir qui tu es. Et je reprendrai donc et je terminerai les paroles de ce sage parmi les sages qui était Mufasa Zatzal dans Le Roi Lion qui dira à son fils, n'oublie pas qui tu es. À bientôt les amis.